Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre de ce soir avec Julien Brigaud et Olivier Siran, qui viennent nous présenter leur livre « Boulot de merde, du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers », publié aux éditions La Découverte. Alors, ce livre se présente comme une enquête sur le monde du travail en 2016. Il est entrecoupé de témoignages, et de témoignages qui représentent un éventail de boulot de merde assez large, donc du cireur de chaussures au gestionnaire de patrimoine, du distributeur de prospectus au personal shopper qui accompagne des clientes dans leurs emplettes de luxe, de l'infirmière asphyxiée par le lean management au journaliste boursier qui récite les cours du CAC 40. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer cette rencontre par définir en fait ce que vous entendez par boulot de merde, qui, dans une sorte d'imaginaire collectif, pourrait se résumer à être un emploi qui correspond aux critères suivants, et là je vous cite, des rémunérations rachitiques, la précarité, des constats dégradés ou inexistants, la dureté de la tâche, l'isolement, l'entrave aux droits syndicaux, les discriminations en fonction notamment du sexe, de la religion et de la couleur de peau, le despotisme patronal ou managérial, le non-respect de la dignité humaine, on pourra en rajouter encore, la liste est longue. Donc, un employé dont les différents critères l'empêchent d'exercer son travail dans de bonnes conditions, mais est-ce que c'est que ça, un boulot de merde? Est-ce que c'est pas aussi ce que David Graeber décrivait dans un article, ce qu'il appelle les bullshit jobs?
Ben, en fait, le boulot de merde, pour nous, c'était un outil pour permettre un balayage assez large du monde du travail, à l'issue duquel on pouvait se rendre compte que une grande partie de ce marché s'apparente effectivement à des boulots de merde. Et la première catégorie, qui est la plus évidente, à laquelle nous pensons tous quand on parle de boulots de merde, c'est évidemment les boulots les plus pénibles, les plus déclassés, ceux de l'industrie des services, le nettoyage, la restauration, parce qu'ils cumulent un peu tous les critères qui nous viennent rapidement à l'esprit. Mais au-delà de ça, il nous a semblé que les boulots de merde, c'était pas que ceux des autres ou que ceux de ceux qui sont encore plus malheureux que nous. Les boulots de merde commencent bien souvent chez nous-mêmes. Nous, Julien et moi, nous sommes journalistes et de notre point de vue, les boulots de merde, ça commence d'abord chez nous, parce que dans la presse, il y a à la fois une précarité de plus en plus grande, des statuts dérogatoires au code du travail, des formes de larbinat aussi, comme ceux qu'on trouve dans l'industrie des services, couplés en plus avec une fonction, on va dire, sociale du journaliste qui est de moins en moins conforme à l'idée qu'on peut se faire de l'utilité du travail de journaliste, qui est celle d'apporter des informations, d'éclairer le public. On le voit là, par exemple, avec les journalistes d'e-télé qui sont en grève, depuis longtemps, avec courage, et qui, en même temps, dont on connaît le travail essentiellement à travers leur traitement très négatif, qu'ils font des mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'ils font grève, en fait, pour pouvoir continuer à insulter les grévistes, mais dans des conditions un peu moins dégradées. Donc, pour nous, ça entre de plein pied dans ce que nous, on qualifie de boulot de merde, sachant qu'on n'a pas une définition précise. On se garde bien de définir. Pour nous, ce n'est pas un concept, c'est un outil qui démarre avec quand même une dimension subjective. Il y a plein de gens dont nous-mêmes qui se disent à un moment donné « on fait un boulot de merde ». Mais très vite, nous, on considère qu'il faut se sortir de cette dimension subjective pour entrer dans les critères qui sont donc ceux que je viens de citer sur les boulots les plus dégradés. Mais quand on prend, par exemple, il y a un chapitre dans le livre sur les distributeurs de prospectus. C'est un bon exemple parce qu'ils font effectivement un boulot qui est extrêmement ingrat puisqu'il est pénible et qu'il est extrêmement mal rémunéré, en dessous du SMIC. Et en réalité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ils sont une partie de la paye qui leur revient leur est volée par leurs employeurs grâce à un régime qui a été soutenu en haut lieu par la direction du travail. Mais leur boulot n'est pas seulement merdique du fait des conditions dans lesquelles ils le font, il l'est également par sa nature même qui est de qui est en fait de servir une industrie du remplissage de nos poubelles, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'il y a de plus inutile que d'avoir dans notre boîte aux lettres des prospectus qui font l'éloge de la semaine du cassoulet au Super U ou, et donc on en vient à la question de l'utilité en fait du boulot et du sens qu'on lui donne. Dès lors que se manifeste le manque d'utilité, l'absence de sens d'un travail, ça ne peut pas se cantonner uniquement au boulot du bas. Il faut bien aller aussi vers les boulots du haut qui sont parfois eux aussi parfaitement inutiles, voire néfastes. Prenez le conseiller en optimisation fiscale, dont le travail consiste à priver la collectivité de la collecte des impôts. C'est un travail merdique dans la mesure où il a des conséquences néfastes sur l'ensemble de la société. Donc voilà, cette notion de boulot de merde, qui est au début un truc purement, qui est de l'ordre du ressenti, nous avons essayé d'en faire un levier pour débusquer des emplois qui sont relativement valorisés, parfois même considérés comme prestigieux dans certains cercles, et que, a priori, on ne considère pas du tout comme faisant partie de cette catégorie infamante. Donc voilà, ça nous a permis un balayage très large. Alors on va nous dire c'est un jugement moral qu'on porte sur tel ou tel métier que nous, on n'aime pas. C'est en partie vrai, parce que c'est vrai qu'on a notre propre subjectivité, mais on s'appuie aussi sur des données... un peu plus solides. Nous la citons en introduction, une recherche qui a été menée par trois chercheuses de la New Economic Foundation, donc un institut de recherche britannique, qui s'est penchée sur l'utilité sociale des métiers, justement, et qui tente d'établir un chiffrage de la valeur d'un métier en termes de retombées sur la collectivité et qui calcule par exemple que l'agent de nettoyage en milieu hospitalier fait gagner combien ?
9,43.
Alors c'est des précisions un peu saugrenues peut-être. 9,43 euros à la collectivité pour chaque petit euro qui est gagné par l'agent de nettoyage. Ces 9,43 euros en fait de valeur sociale tiennent compte par exemple de la réduction des maladies nosocomiales en milieu hospitalier, donc de la réduction des pathologies qu'on peut attraper en allant à l'hôpital. Donc là, il y a une utilité pour la collectivité qui est évidente et que l'étude chiffre. Parallèlement, elle chiffre aussi l'utilité, ou en l'occurrence plutôt la nuisance du métier de publicitaire qui fait perdre, pour chaque euro qu'il gagne, 7 euros à la collectivité. Parce qu'on peut dire que la publicité crée de la consommation, donc crée des emplois, mais en même temps, elle crée de la surconsommation, elle crée de l'obésité, elle crée du gaspillage, elle crée du ramollissement dans nos cerveaux parce qu'on est en permanence exposé à la publicité. Elle crée l'enlaidissement des paysages. Et tout ça fait que le métier de publicitaire, aussi bien rémunéré soit-il, relève lui aussi du boulot de merde. Et alors pour le cas, par exemple, du conseiller en optimisation fiscale, les chercheurs, à travers des calculs extrêmement sophistiqués, parviennent à la conclusion que pour chaque euro qu'ils gagnent, 44 euros sont perdus pour la collectivité. Donc, en réalité, ils devraient gagner 44 fois moins que ce qu'ils touchent. Et peut-être que s'ils gagnaient 44 fois moins que ce qu'ils touchent, ils seraient moins tentés de faire ce métier. Et s'en choisirait un autre qui serait peut-être plus utile.
Oui, non, mais c'est, sur les distributeurs de prospectus, je suis désolé, mais ce n'est pas tout à fait ce que dit le PDG de Adrexo, la société qui fournit donc la plupart de la main-d'œuvre pour distribuer les prospectus qui vont aller dans les boîtes, puis directement à la déchetterie. Hein. C'est 10 milliards d'imprimés publicitaires par an. Et lui, il dit, grâce à ce boulot, les salariés se maintiennent en forme et économisent un abonnement au Gymnase Club. Rémunéré pour faire du sport, il n'y a vraiment pas de quoi crier au servage. Enfin, je veux dire...
À quoi on ajoute que dans ce cas-là, on pourrait aussi bien offrir au PDG d'Adrexo un stage en pénitencier de travail. Oui. Ça lui économiserait son vélo d'appartement et son abonnement au club de golf. Voilà, c'est un peu de la même, dans la même logique, par exemple.
J'aimerais qu'on revienne juste sur la notion de bullshit jobs. Donc, puisque vous dites dès le départ de l'ouvrage que, en fait, cette idée de travailler autour des boulots de merde vient aussi d'un article écrit par Graeber, donc qui est anthropologue, et qui parlait justement donc des jobs de merde, mais plutôt dans les pays anglo-saxons, et de l'ennui du cadre qui gagne très bien sa vie et qui, du coup, prend conscience qu'il fait peut-être un métier aussi nuisible, malgré un salaire exorbitant qu'elle reçoit tous les mois, plus les primes. Et que ça a permis aussi, en le rencontrant, Graeber, justement, vous êtes allé à sa rencontre, ça vous a permis aussi de vous rassurer sur la méthodologie que vous allez utiliser pour ce travail.
De nous inquiéter sur sa méthodologie qui semble-t-il, était assez aléatoire. Mais en fait, son texte qui s'appelait « À propos du phénomène des boulots de merde, des bullshit jobs », que les journalistes français traduisent plus par « boulot à la con » ou « boulot à la noix », enfin, je sais pas, ils aiment pas trop l'expression « boulot de merde », qui pourtant est vraiment d'une clarté, d'une limpidité absolue. Et effectivement, lui, il a écrit cet article donc il y a quelques années pour pointer du doigt tous ces gens qui travaillent dans la technostructure capitaliste, les assurances, les banques, le marketing, tout cet univers de col blanc, qui sont effectivement, selon lui et selon d'autres travaux, qui sont frappés du syndrome de l'ennui, et où ils passeraient davantage de temps à actualiser leur compte Facebook et à télécharger des séries plutôt qu'à exercer des tâches productives. Et il nous a semblé que son intuition était assez bien vue, dans le sens où on voit bien que dans le monde du travail, il y a une sorte de survalorisation des tâches qui ne produisent pas de valeur, tandis que ceux qui produisent de la valeur concrète, ceux qui sont en bas de l'échelle, sont systématiquement attaqués, laminés, et leurs conditions d'exercice de leur travail se durcissent d'année en année, tandis que ceux qui sont dans des cadres, dans des positions de cadre, de manager, effectivement seraient enclins à l'ennui, au stress, voire même, il y a une nouvelle dénomination qui a été créée, qui est sorti là des médias, c'est le terme brownout. Brownout, ça veut dire la prise de conscience que ce qu'on fait est nuisible, c'est-à-dire le fait de réaliser que le travail de tous les jours est un travail qui peut-être nous assure un confort, un CDI, une maison, que sais-je. Et par contre, quand on réalise que le travail qu'on fait pénalise d'autres personnes, directement ou indirectement, là, il y a une période de prise de conscience qui peut se caractériser par des phénomènes dépressifs ou des phénomènes de prise de conscience un petit peu terribles pour les cadres.
Il y a un engouement très fort des journalistes pour ce genre de dénomination. Plutôt que de parler de pétage de plomb, on va parler de burn-out. Plutôt que de parler de gens qui s'emmerdent au boulot, on va parler de bore-out. Et plutôt de gens qui se rendent compte de la vacuité de leurs tâches, on parle de brown-out. Bon, voilà, nous, on n'a pas repris cette typologie. Mais effectivement, David Graeber, lui, il a théorisé la notion de bullshit job. Et son article, nous, on l'a découvert comme beaucoup de gens parce qu'il a été énormément lu et commenté. Il y a eu énormément de consultations de son article sur Internet. Et donc, ça conduit aussi la presse à se pencher... sur le chevet de ces malheureux cadres qui se rendent compte que ce qu'ils font n'est pas aussi brillant, n'est pas aussi sexy ou glamour que ce qui leur avait été enseigné dans leurs écoles de commerce. Et c'est à travers aussi un peu cette lunette-là que les médias, pendant en tout cas un certain temps, ont appréhendé le monde du travail. Il y a eu énormément d'articles sur la notion de bullshit job de la part de journaux qui sont beaucoup moins enclins à se soucier du sort des agents de nettoyage qui viennent leur nettoyer leur bureau au petit matin, agents de nettoyage qui sont externalisés, sous-traités, avec des statuts pourris, avec des conditions de travail épuisantes, des produits utilisés qui sont toxiques, etc.
C'est pas
considéré comme le mal du siècle.
Non. Quand bien même la majorité de la population occupe des postes d'employés ou d'ouvriers, en France, c'est 51% quand même. Les cadres, c'est 12%, pour avoir une indication. Les journalistes ne se sont pas dit qu'il serait intéressant de créer une nouvelle notion qui serait par exemple le burn-out, le fait de se casser les os au travail, quelque chose de structurel, puisque depuis depuis 10 ans, les maladies, les troubles musculo-squelettiques ont littéralement explosé en France. Ils ont subi une augmentation de 40%. 40% ces 10 dernières années. Donc l'intensification du travail dans le bas de l'échelle a des conséquences physiques, morales, mentales, sociétales très importantes. Et pourtant, effectivement, on continue à s'apitoyer sur le sort des cadres et des cols blancs qui, effectivement, on pense que c'est en raison de la proximité sociologique des journalistes que l'accent est vachement mis sur leur souffrance à eux. Mais il nous semble que quand on dit boulot de merde, David Graeber a beau définir les boulots de merde comme les boulots de la technostructure, des cadres, des managers, c'est assez intéressant, je trouve aussi, cette prise de conscience du fait que le travail en lui-même est nuisible. C'est assez intéressant. Sauf qu'on n'est pas dans une étape de réaction, on est dans l'étape de prise de conscience qui généralement se traduit dans notre époque actuelle par des solutions individuelles, par de la relaxation, de la méditation, le fait de manger du muesli bio, le fait d'aller s'aérer, de cultiver son jardin intérieur, vous entendez ça tout le temps. On est dans une période où les solutions aux problèmes collectifs vont être individualisées. Et ça, il me semble que ça devrait être l'étape d'après, cette prise de conscience, mais elle ne se produit pas. Elle ne se produit pas parce qu'il y a effectivement un problème de canalisation de cette violence. Et effectivement, ça nous semblait important de rappeler que ceux qui font vraiment les boulots de merde dans cette société ne sont pas tout à fait ceux auxquels on pense, là où on peut le lire. Ce sont plutôt les gens qui, par exemple, distribuent des prospectus en étant payés 2 heures sur 3, voire 2 heures sur 4, de façon structurelle, avec la collaboration des ministères du travail successifs qui écrivent des dérogations pour permettre aux employeurs de continuer à lessiver une main-d'œuvre qui est souvent étrangère, souvent pauvre, souvent ce sont des femmes célibataires ou souvent ce sont même des retraités. L'an passé, il y a un distributeur de plus de 80 ans qui est décédé en plein dans sa tournée. Bon, bah, l'employeur Adrexo lui a continué à lui envoyer des fiches de salaire de 0 euro pendant plusieurs mois, comme ça. C'est ce cynisme ordinaire du monde du travail qui est effectivement... Il n'y en a pas qu'un, c'est pas exceptionnel. Il y a des tas de gens qui... c'est ce qu'on disait il y a quelques années des États-Unis, en fait. Vous voyez tous ces gens qui font plusieurs boulots, 2 ou 3 en même temps. C'est la réalité en France, de façon assez ordinaire. Et il nous semblait que... Nous notre livre, c'est à peu près à 80% sur le monde du travail, des oubliés, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais... de ceux auxquels, effectivement, il n'y a pas de travail de fond pour dénoncer les conditions de travail structurelles qui les anéantissent à petit feu. Et voilà, c'est à peu près 80% du livre concerne cette catégorie de population-là. Et 20%, les conseillers de gestion en patrimoine, les conseillers fiscaux, les journalistes boursiers. On a été voir Jean-Pierre Gaillard, par exemple, qui a bercé toutes nos enfances, nos jeunesses, nos adolescences, enfin... avec des cours du CAC 40 débités à la minute, comme ça. Et on est en droit de se poser la question, est-ce que Jean-Pierre Gaillard n'a pas effectué un boulot de merde pendant 30 à 40 ans ? D'autant plus qu'il fait fructifier tout son carnet d'adresses qu'il a accumulé au fil des années pour créer aujourd'hui sa propre boîte d'investissement en bourse. C'est assez intéressant. D'ailleurs, le système d'information publique permet à des gens d'avoir un petit capital qui peuvent faire fructifier après. Donc c'est pas inintéressant. Mais voilà, le livre démarre sur des métiers que l'on pensait disparus et qui sont le symbole de cette société des services, pour ne pas dire cette société des serviles. Puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'échelle de la planète, il y a une statistique qui est assez intéressante pour montrer la façon dont nous acceptons tous et nous assistons tous à cette explosion des inégalités. C'est le nombre de travailleuses domestiques sur la planète. Entre 1990 et 2006, le nombre de travailleuses domestiques a été multiplié par 6, enfin, a augmenté de 60%, pardon, ça ne veut pas dire par 6. Un peu moins de 2, c'est plus 60% à l'échelle de la planète. 52 millions de femmes occupent ces positions de travailleuses domestiques pour le confort des classes moyennes et supérieures partout dans le monde. Et c'est un chiffre intéressant puisqu'il montre qu'on revient dans une économie de la servilité et l'explosion des inégalités fait que les personnes qui possèdent du capital ont de moins en moins de problèmes à sous-traiter leur confort, d'autant plus que ce confort est subventionné par l'État français depuis Jospin, puisque vous savez que si vous prenez une heure, une nounou ou même un prof à domicile. Vous êtes défiscalisé, vous avez un retour, comment on appelle ça, crédit d'impôt, voilà, crédit d'impôt sur de la moitié du montant que vous avez dépensé pour cette tâche-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin d'aide à domicile, hein, c'est même tout le contraire. C'est-à-dire qu'on entre dans... Sociologiquement, la France, ça va être un pays de personnes du troisième âge, majoritairement. Et la question va se poser, et se pose déjà, d'organiser concrètement, de la meilleure manière possible, que les gens, que ces femmes, et c'est essentiellement des femmes, pour qu'elles puissent exercer ces métiers avec des bonnes conditions de travail, avec des bons salaires, sans être obligées de multiplier 3 ou 4 employeurs et de courir après des horaires, des vies impossibles, en fait. Et donc, on part dans le livre sur ces métiers que l'on pensait disparus. Et le premier, c'est le cireur de chaussures, qui nous semble l'incarnation d'un métier qui ne devrait pas exister. On assume caractère subjectif. Désolé, chers journalistes qui nous invitaient, on n'est pas encore totalement robotisés. On a encore un jugement et une grille de lecture pour appréhender le monde social. Et on estime que, par exemple, le métier de cireur de chaussures ne devrait pas exister, ne devrait pas, en théorie, exister. Sinon, d'ailleurs, c'est toi qui as posé la question à Jean Sarkozy, pourquoi on recréerait pas le métier de porteur de chaises, par exemple ?
Les chaises à porteurs de l'Ancien Régime, vous savez...
Oui.
Ça pourrait être... Puisque là, en l'occurrence, le cireur de chaussures du Parvis de la Défense travaille dans le cadre d'un réseau de travailleurs indépendants. Ça, c'est un autre aspect aussi de la merdification des métiers. C'est l'isolement de plus en plus grand des travailleurs via des statuts comme celui d'auto-entrepreneur. Il y a quand même 1 million d'auto-entrepreneurs en France qui, en général, font des tâches qu'ils pourraient aussi bien et certainement mieux faire s'ils étaient au moins salariés, c'est-à-dire si leur employeur était à tout le moins obligé d'assumer ses responsabilités vis-à-vis du salarié. En tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez plus d'employeur, vous n'avez pas de patron, vous avez juste des clients. Et donc là, le cireur de chaussures du Parvis de la Défense... n'a pas d'employeur, si ce n'est les cadres de la Défense qui viennent lui faire champouiner leur grolle. Et en revanche, le dispositif est encouragé et subventionné par le Conseil général des Hauts-de-Seine au titre de l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est assez génial. Alors, ça peut paraître une contradiction dans les termes, une économie sociale et solidaire, mais c'est vrai qu'il y a des structures qui essayent quand même de pratiquer une économie qui soit un petit peu moins prédatrice que celle dans laquelle nous vivons tous.
En se basant sur l'utilité sociale présumée, d'ailleurs. C'est un secteur d'activité qui prend en compte l'utilité sociale de telle ou telle tâche. Ça, c'est pas inintéressant. Voilà.
Donc, c'est un secteur qu'on pourrait en parler longtemps qui n'est pas non plus avare de contradictions, mais dans certains domaines, il joue parfois un rôle plutôt favorable, on va dire. Et là, avec les cireurs de chaussures, on est vraiment dans l'économie du 19e siècle, quoi. Et c'est ça que le Conseil général des Hauts-de-Seine subventionne. Et donc, le principal acteur de ce soutien politique et économique du Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est Jean Sarkozy, qui est le vice-président du Conseil général en charge de l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne soutiendriez pas un projet de chaise à porteurs sociale et solidaire avec des poignées en mousse pour pas que les porteurs chopent des cales aux doigts, histoire de... Voilà, ça c'est pour le côté social et solidaire. Et il s'est un peu emporté. Il a trouvé que la comparaison n'était pas appropriée.
Comment s'est déroulé ce travail en fait d'enquête ? Comment vous avez rencontré ces différents travailleurs et en surtout en leur proposant justement de votre Enfin, la question de savoir sur le boulot de merde, est-ce que justement les gens que vous avez rencontrés, les travailleurs que vous avez travaillé, que vous avez rencontrés, avaient conscience d'exercer un métier de merde, soit parce que effectivement ils étaient empêchés de travailler dans de bonnes conditions, soit à l'inverse, est-ce qu'ils avaient conscience de la nuisance sociale à laquelle ils participaient ?
Justement, ça c'est un des points sur lesquels on se démarque fondamentalement de David Graeber, pour qui le bullshit job caractérise le boulot du col blanc. Qui souffre de la vacuité de son boulot, de la perte de sens, etc., qui s'emmerde au boulot, qui joue à Candy Crush voilà, sur sa tablette. Et pour nous, le boulot de merde ne se caractérise pas nécessairement par la prise de conscience de celui qui l'exerce, parce que nous mobilisons tous un certain nombre de ressources pour essayer de trouver une justification à ce que nous faisons. Parce que sinon, derrière, ce qui nous guette, c'est la déprime. Et dans des boulots où qui sont frontalement merdiques, où on a beaucoup plus de mal à se raccrocher à l'idée que ça vaut le coup de faire ce boulot, malgré tout, même là, vous allez trouver des gens qui vont défendre leur salade, quoi, et c'est tout à fait normal, et il peut y avoir quelque chose de violent, de condescendant à leur dire « Ah, mais vous faites un boulot de merde », même si on prend garde, nous, à expliquer d'où on parle, pourquoi nous-mêmes, on se considère comme porteurs d'un boulot de merde, on peut aussi considérer que c'est une forme de snobinardisme journalistique, de dire oui, on fait un boulot de merde, mais en même temps, journaliste, c'est un boulot prestigieux, c'est un métier quand même. Vous écrivez, vous avez un nom, votre signature au bas d'un article de temps en temps, c'est valorisant, etc. Et donc, c'est pas non plus à méconnaître. Il y a des degrés évidemment différents. Nous, on n'a pas la prétention scientifique de faire justement une typologie nuancée en fonction des différents degrés de merditude qu'un boulot peut avoir. Toujours est-il qu'en tout cas, nous, on a choisi de s'abstraire de la dimension purement subjective parce qu'elle n'est pas pertinente. On a rencontré quantité de gens qui font vraiment des boulots durs, des boulots grotesques, des boulots absurdes et qui, malgré tout, se raccrochent quand même à l'idée que ce qu'ils font a du sens. Mmh. Et essayer de les persuader du contraire, c'est un peu violent. On n'est pas là pour ça non plus. Donc parfois... C'est peut-être un peu fourbe, mais on a aussi parfois un peu caché nos intentions ou on les a un peu atténuées en disant voilà, nous on s'intéresse au monde du travail, on fait un travail, un peu une sorte d'encyclopédie des métiers.
Almanach
des métiers, c'est pas faux d'ailleurs, mais enfin bon, c'était quand même pas ça exactement notre sujet. Et voilà, par exemple, il y a cet exemple qu'on cite en introduction d'un comédien qui rêvait sans doute d'interpréter Hamlet sur une scène et qui s'est retrouvé en costume de kangourou dans un parc d'attractions à faire le guignol devant des enfants. Et on lui disait, mais est-ce que tu fais pas un boulot, t'as pas l'impression parfois de faire un boulot de merde? Puis il s'est gratté la tête, il a réfléchi, puis il a dit, ben non, parce que quand je fais ça, je vois du bonheur dans les yeux des enfants. Donc, bon, il voit moins le bonheur dans les yeux de son patron qui le paye une misère à se ridiculiser en tenue de kangourou. Mais cette histoire de bonheur dans les yeux des enfants, ça lui permettait quand même de réinjecter un peu de sens et de dignité dans son boulot. Et c'est ça d'ailleurs qui est parfois assez bouleversant aussi. C'est cette... tentative qu'on a sans doute nous tous, y compris nous aussi, on fait les malins en disant qu'on fait un boulot de merde, mais des fois aussi on se dit ah, quand même c'est pas mal, on fait quand même quelque chose qui vaut le coup, etc.
Même les managers de transition, vous savez, ces gens qui sont payés pour démolir le plus d'emplois possible et pour exercer des plans de licenciement, je pense que ces gens-là se raccrochent à l'idée qu'en faisant ça, ils sauvent d'autres emplois, ils sauvent l'entreprise. Vous savez, cette idée de faut bien ponctionner un tout petit peu pour que l'entreprise permette de continuer à perdurer. C'est un peu ça aussi, les métiers les plus nuisibles, il faut bien trouver des justifications pour les tenir au quotidien, quoi. C'est quand même... Sur Jean Sarkozy, oui, je voulais juste vous remettre un peu dans le droit chemin, Monsieur Siran. Ça n'a rien à voir, vraiment. Donc Olivier lui demande s'il ne faudrait pas mettre en place des chaises à porteurs. Ça n'a rien à voir. Cireur, c'est un métier. Je ne comprends pas le mépris que vous portez à ça. Si des responsables de centres commerciaux ont décidé de développer cette offre, c'est parce qu'ils estiment qu'elle présente un intérêt pour leur clientèle et qu'elle correspond aux normes de ce type de prestation. Voilà, bon, je vous passe la suite. Mais c'est assez intéressant cette histoire de s'il y a des clients, s'il y a des gens qui estiment que ça présente un intérêt pour eux. C'est cette fameuse politique de l'offre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont les moyens de payer, dans ce cas-là, tous les métiers seraient légitimes.
Qui répondent à une demande solvable, en fait. C'est l'unique critère.
Voilà, et c'est assez intéressant, parce que du coup, ça nous projette effectivement dans une société de promeneurs de chiens, de pousseurs de caddies, de cireurs de chaussures, avec cette idée selon laquelle vaut mieux un boulot que pas de boulot du tout. Vaut mieux un boulot que d'être un assisté. Hein. Vous savez, l'assistanat, cette chose terrible qui frappe la France, quand on sait que le non-recours au RSA représente 35 fois ce qui est appelé la fraude aux allocations familiales. Vous savez, c'est 200 millions d'euros par an. Ces salauds de gens qui volent la sécurité sociale et les prestations familiales. 200 millions d'euros, vous ne multipliez pas ça par 35 et vous avez le nombre de gens qui ne réclament même pas leur RSA. Donc quand on parle d'assistanat, c'est intéressant quand même de remettre les choses un petit peu.
Et sans parler aussi de tous ceux qui vont au boulot alors qu'ils sont malades. Parce qu'il y a énormément de gens, vous en connaissez sans doute autour de vous, ou peut-être ça vous arrive vous-même, vous êtes malade, vous feriez mieux de rester chez vous, vous allez quand même aller bosser parce que vous ne pouvez pas vous permettre le délai de carence, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de recevoir les coups de bâton de l'employeur qui vous punit parce que vous n'êtes pas venu, parce que vous n'avez pas envie de recevoir les coups de fil énervés de votre manager. Enfin voilà, le nombre de gens qui vont travailler alors qu'ils sont malades, ça fait pas partie des statistiques qui sont quotidiennement matraquées sur les médias.
Mais quand même, ce matin, les journalistes ont redécouvert la lune puisqu'ils ont annoncé que les lombalgies coûtent 1 milliard d'euros par an à la Sécu. Les lombalgies. Vous voyez, ces mal de dos chroniques là, qui font qu'on a mal, quoi. On a mal, on ne peut plus travailler. Et ça coûte 1 milliard d'euros par an. Voilà l'exemple même de les répercussions économiques et financières de l'intégration des boulots de merde dans la vie de tous les jours, quoi, sans vouloir s'attaquer aux causes structurelles, mais en se retrouvant avec des conséquences qui sont chiffrables, qui sont rarement chiffrées, mais qui là sont chiffrables, et qui en fait englobent beaucoup de gens.
Est-ce qu'on peut évoquer le service civique, qui est présenté, en tout cas par l'État, comme une sorte de tremplin vers un vrai métier, et qui, dans les faits, est un CPE déguisé?
Oui. Le service civique, vous savez, c'est une idée adaptée de décisions qui ont été prises aux États-Unis sous Clinton. C'était l'idée, de faire prendre en charge les effets collatéraux de la pauvreté dans les quartiers pauvres, faire prendre en charge cette pauvreté par les pauvres eux-mêmes, c'est-à-dire leur trouver une utilité sociale pour les occuper. Alors ça, c'est le premier point. Ça a été adapté à la France il y a une dizaine d'années à peu près par une association qui s'appelle Unicité, que vous connaissez peut-être, qui essaime un peu partout en France, et notamment dans le Nord. Et pour la petite histoire, moi, ils ont un programme, vous savez, donc c'est 28 à 35 heures de travail par semaine, pour un demi-SMIC. Bon, demi-SMIC, hein, vaut mieux un boulot que pas de boulot du tout, hein. Donc un demi-SMIC pour, soi-disant, des tâches utiles à la collectivité. Et c'est intéressant parce que ce qu'ils classent derrière des tâches utiles à la collectivité, c'est par exemple d'aller dans les tours des quartiers HLM, des quartiers pauvres, expliquer aux gens comment économiser leur énergie. On ne va pas aller dire aux petits lutins du capitalisme vert et aller expliquer aux gens que la privatisation du marché de l'électricité, de l'énergie, du gaz et puis des transports, enfin tout le reste. Mais là, le marché de l'énergie, de l'électricité a été privatisé et donc le prix de l'énergie a augmenté de 50 à 70% ces 10 dernières années. Vous le constatez tous, je pense. L'énergie, ça coûte un bras maintenant. Il faut vraiment, avoir des revenus stables pour pouvoir se payer un chauffage. Et effectivement, ces gens-là, par exemple, sont envoyés en collaboration avec l'entreprise Schneider Electric et l'entreprise EDF pour aller expliquer aux gens que c'est un peu de leur faute s'ils ont des factures qui explosent et qu'ils feraient bien d'acheter des mousseurs, par exemple, vendus par Schneider Electric, entre guillemets, entre parenthèses, des mousseurs, des coupe-veilles, c'est des coupe-veilles pour faire en sorte que les appareils ne restent pas allumés toute la nuit, etc. Et donc, ces jeunes gens, âgés de 18 à 25 ans, souvent des décrocheurs, ils prétendent que c'est le service civique réunit des bacs moins 12 et des bacs plus 12, ce qui est totalement faux, c'est essentiellement des décrocheurs du système scolaire. Et donc, on envoie ces gens-là dans les quartiers populaires pour aller expliquer aux pauvres qu'il ne faut pas se rebeller contre le marché, contre les décisions politiques prises pour développer le marché sur ces choses essentielles. Au contraire, il faut les enjoindre à se responsabiliser, à couper l'eau après, pendant qu'on se brosse les dents. Enfin, c'est du Yann Arthus bertranisme érigé en politique de la ville, quoi, voyez. Et donc ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et effectivement, vous allez entendre beaucoup parler du service civique bientôt. Là, François Hollande, s'il se présente, enfin, lui ou ses petits camarades, s'ils se présentent, et puis même les gens de droite, d'ailleurs, enfin, de l'UMP, enfin, de, non, les Républicains, pardon, même ces gens-là vont dire, oui, le service civique, c'est vraiment le grand élan dont la France a besoin, puisque ça va représenter 350 000 personnes d'ici 2 ans. C'est quasiment toute une génération, en fait, de gens qui vont être forcés, c'est le CPE moderne, on peut dire, forcés de réaliser des tâches auxquelles ils ne croient pas, parce que là, c'est vraiment le cas. Il se trouve que moi, j'ai bossé pendant 2 ans pour une unicité en tant qu'intervenant. Je les formais à la critique des médias, les jeunes volontaires, comme on les appelle, du service civique. Donc je connais assez bien le sujet, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec eux. Et il y a vraiment un profond sentiment d'inutilité et surtout de préparation aux logiques du marché du travail. Se taire, accepter l'autorité, accepter les mauvaises payes, accepter qu'on vous prenne, on vous rogne encore de l'argent dessus, sur votre maigre salaire. Et c'est intéressant parce que ça va être présenté comme la solution pour en finir avec le chômage des jeunes, la déshérence, voilà, etc., etc. Donc c'est un chapitre auquel on tient beaucoup parce que pour nous, c'est la préparation aux réalités du monde du travail, c'est-à-dire le royaume de l'injustice et les ennemis de la démocratie, quoi. C'est rarement rappelé, mais je pense que vraiment l'entreprise, faut vraiment se le dire, quoi. D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, c'est le patron de l'entreprise Florette, vous savez, les salades en sachet Florette. Il dit que l'entreprise ne peut pas être le lieu de la démocratie. C'est bien d'avoir des paroles comme ça, parce que ça nous rappelle que dans ces espaces-là, c'est quelque part le règne de l'arbitraire aussi, quoi. Et qu'on soit tous obligés de passer la moitié de sa vie, un petit peu moins, un petit peu plus, sous des ordres illégitimes et injustes de gens qui nous donnent une pièce, c'est une critique radicale du travail qui est délaissée, totalement délaissée, et qu'on est content de remettre au goût du jour, ça nous semble.
Et là, c'est le moment quand même de citer cette très intéressante étude de l'université de Bond aux États-Unis, qui a été publiée récemment, qui suggère que 20% des chefs d'entreprise, donc 1 sur 5, est un être dénué de toute capacité d'empathie. Capable d'actes de cruauté gratuits, donc en fait répondant à tous les critères qui définissent la psychopathie, quoi. On a un patron sur 5 qui est un psychopathe, alors que dans la population globale, on n'est qu'entre 1 et 2% de psychopathes. Dans la population globale, et chez les chefs d'entreprise, c'est 20%. Donc il y a aussi toute une préparation via les écoles de commerce, via tout le conditionnement auquel on est rompu dans les circuits par lesquels on monte l'échelle sociale, qui nous pousse à perdre les quelques capacité d'empathie que nous pourrions avoir pour devenir des espèces de Père Ubu, quoi. Et c'est aussi à ça qu'on est exposé. Et c'est ce qui définit aussi, du coup, pour revenir au boulot de merde, l'une des conséquences, en fait, de tous ces boulots-là, et donc en réalité d'une grande partie du monde du travail, c'est que ça abîme les gens. Ça les abîme pas seulement au travers des difficultés quotidiennes de vie, à travers les problèmes physiques, qui en découle, les 500 à 600 morts du travail chaque année, auxquels il faut ajouter les milliers d'accidentés du travail qui continuent à souffrir des séquelles de ces accidents pour le reste de leur jour. Mais il y a aussi toutes les personnes abîmées par la perte d'estime de soi. Et perte d'estime de soi qui peut venir des modes de gestion despotiques qu'ils rencontrent, qui peut venir de la conscience de faire un boulot qui sert à rien ou un boulot néfaste. Et ça aussi, ça concourt à une réduction de l'espérance de vie, quoi. C'est quelque chose qui est... c'est une véritable violence sociale. C'est parfois difficile à dire, difficile à entendre. Mais en réalité, la violence sociale, c'est bien dans le monde du travail qu'elle est la plus intense. C'est très spectaculaire, en fait, quand on parle avec des gens qui bossent, quel que soit le milieu. La violence sociale, elle est extrême. Et on s'étonne, on peut s'empêcher de s'étonner, bien qu'on en ait vu pas mal, mais on peut s'empêcher de s'étonner qu'elle soit à ce point-là ignorée, négligée, éludée dans la façon générale qu'ont les médias en particulier d'appréhender le monde du travail.
Au nom du plein emploi, souvent, c'est ça. Il nous faut une société du plein emploi. Il faut qu'on ressemble à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux États-Unis, à tous ces pays où le SMIC n'existe pas. Enfin, il existe maintenant depuis peu en Allemagne, mais enfin, c'est ça le modèle, quoi. Et pour revenir deux secondes à l'étude sur les psychopathes parmi les managers, c'est pas juste une provocation de dire les patrons sont tous des malades, etc. On ne naît pas psychopathe, on le devient. Et je crois que les conditions structurelles dans lesquelles le monde du travail s'exerce actuellement créent des psychopathes, créent des gens qui sont dénués de toute capacité d'empathie et qui sont décidés à écraser leurs collègues, écraser leur alter ego, etc. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette conférence de Frédéric Lordon. Moi, je ne suis pas spécialiste de la philosophie, mais enfin, il citait Spinoza. Il disait, Spinoza expliquait que l'homme peut être un loup pour l'homme, mais il peut être aussi un dieu pour l'homme, c'est-à-dire se comporter en homme bon, mais aussi en homme profondément mauvais. Et nous avons tous ça en nous, cette espèce de dualité, le fait qu'on peut être très bon et aussi assez exécrable. Et je pense que tout dépend des structures dans lesquelles on exerce nos emplois. Si on passe notre temps à avoir des gens qui n'ont pas le même statut, des gens qui n'ont pas le même salaire, des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts à défendre presque, alors que tout devrait les enjoindre à s'unir ensemble. Si, par exemple, moi j'ai bossé à Radio France, on a des gens qui sont en CDI, en CDD, on a même des auto-entrepreneurs maintenant, on a des intermittents du spectacle, et on a tout un tas de gens comme ça qui n'ont quasiment aucune raison de s'allier les uns aux autres. Et donc on a un isolement comme ça des travailleurs au sein même de leur structure qui crée là quelque chose de très très profond qui est l'incapacité d'agir, quoi, et le repli sur soi. Et ça crée cette espèce de profonde déprime de on ne peut rien changer, etc. Or l'histoire des mouvements sociaux nous montre que c'est l'inverse. Que si on s'allie collectivement et que l'on enclenche des luttes sociales collectives, par exemple le harcèlement moral, chose banale dans le monde du travail aujourd'hui, hein, dans énormément d'entreprises, il y a du harcèlement, essentiellement sur les femmes de plus en plus, mais enfin pas que. Si les travailleurs sont solidaires entre eux, il n'y a pas de harcèlement possible. S'il y a un bloc uni face au patron, le harcèlement est complètement éteint, quoi. Donc c'est important de rappeler aussi qu'on ne naît pas psychopathe ou on ne naît pas larbin, on le devient, et c'est les conditions structurelles. Et là, effectivement, avec des lois comme la loi travail, qui est une véritable catastrophe puisqu'elle donne encore plus de pouvoir aux entreprises pour négocier les conditions qu'elles vont mettre en place avec les salariés. Donc c'est effectivement, vous allez voir bientôt, il y aura une mode du référendum en entreprise qui va être l'inverse d'une démode du référendum populaire, quoi. Depuis que les Anglais ont voté pour le Brexit, je pense qu'on ne verra plus de référendum à l'échelle de la population d'ici un paquet de temps. Mais par contre, on va avoir une explosion des référendums référendums dans les entreprises où, de toute façon, les dés sont pipés, puisque comme à l'usine Smart, où les salariés ont voté, soi-disant, le fait de pouvoir bosser 39 heures en étant payé 37, vous avez vu les gros titres de la presse, les journalistes ont salué cet effort nécessaire des ouvriers. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce référendum? C'est qu'il y a plus de cadres que d'ouvriers à l'usine Smart. Les cadres ont voté à 70% pour, et les ouvriers ont voté à 30% pour. Donc effectivement, dans la balance, c'est le oui qui l'a gagné. Donc là aussi, on a un déplacement de la structure au sein même des entreprises qui c'est le travailleur des grands moulins de Paris. On lui consacre un chapitre où il explique qu'ils sont 5 à bosser sur le terrain et 9 dans les bureaux. Et on peut même aller plus loin. L'essentiel du boulot de ces gens-là est de faire de l'optimisation sociale, c'est-à-dire qu'avec tous les nouveaux statuts, ça prend de l'énergie, de la bureaucratie, du temps d'organiser tous ces contrats, toutes ces dérogations, etc. Et de l'autre côté, c'est de l'optimisation fiscale, puisqu'il s'agit quand même, pour la majorité des entreprises, de tout faire pour éviter de payer l'impôt. Ça reste l'alpha et l'oméga. Avec, bien sûr, l'obsession du travail gratuit, ça c'est une autre chose dont on pourrait parler aussi, mais voilà, il y a de plus en plus de gens dans les bureaux et de moins en moins de gens en train de produire de la matière. Et après, vous verrez que les référendums d'entreprise vont sacraliser, soi-disant, une responsabilité des ouvriers qui sont d'accord pour travailler plus en étant payés moins pour un groupe qui est déjà multimillionnaire et qui ne cesse d'augmenter les dividendes à ses actionnaires. Quoi.
Est-ce qu'on peut évoquer le lean management et les répercussions dramatiques que ça a là sur, vous prenez l'exemple du CHU de Toulouse, donc là on est dans les métiers de sentier, des métiers utiles et qui apportent énormément à la société et en particulier... Malgré tout, les infirmiers ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Les médecins et tout le personnel soignant ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Et chose dramatique, il y a eu 4 suicides cet été dans l'équipe. Et est-ce que le lean management est responsable de ça?
Le lean management, c'est un nom un peu savant pour désigner le toyotisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le toyotisme, c'est un peu le nouveau taylorisme, quoi. C'est le taylorisme 2.0 où le travailleur se donne lui-même les ordres, en fait, et est invité, soi-disant, à participer à l'amélioration du processus. Bon, tout ça, c'est vraiment de la foutaise, puisque si on demande son avis aux salariés, par exemple, de l'hôpital de Toulouse, sa première réponse va être de dire « embaucher du personnel » parce qu'on n'en peut plus de bosser et d'être à 2 alors qu'on devrait être 4, etc. etc. Donc là, je peux vous dire que l'infirmière qui répond ça au manager du lean management, elle va se faire gentiment rabrouer. On va lui dire « c'est pas à l'ordre du jour ». Donc le lean management, ça vient donc des usines Toyota. C'est censé s'appliquer uniquement aux usines de process en France, enfin dans le monde de l'industriel. Donc les industries aéronautiques, automobiles, nucléaires, etc. Toutes sont sous lean management. Et depuis quelques années... Ce lean management s'installe tout à fait clairement dans les services publics. À Radio France, à La Poste. La Poste, ils ont appelé ça Élan. Pas lean, mais Élan. Ils ont changé l'ordre des lettres. C'était plus acceptable, apparemment. Au Pôle emploi.
À la CAF.
Et dans les hôpitaux publics français, où on pratique cette méthode de restriction budgétaire. Tout ça pour rembourser les banques. Hein. On est dans la même matrice qui est de rembourser les banques, puisqu'on n'a plus le droit, les hôpitaux n'ont plus le droit d'emprunter sur les marchés, à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations. Ça, on peut dire merci Roselyne Bachelot et puis merci Alain Juppé aussi, parce que c'est quand même eux qui ont fabriqué cette impossibilité d'emprunter à taux zéro. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers avec, par exemple, pour l'hôpital de Toulouse, 15 millions d'euros chaque année simplement en intérêts de la dette. Simplement les intérêts. 15 millions d'euros, ce qui représente à peu près 450 postes d'infirmières. Donc vous voyez que les changements structurels de financement, par exemple des hôpitaux, eh bien induit sur le long terme des politiques drastiques de rigueur budgétaire, d'austérité, qui font que les infirmières et les aides-soignantes et tous les personnels hospitaliers vivent un véritable calvaire. Il y a eu une manifestation il y a quelques jours. C'est effectivement extrêmement préoccupant. Il y a eu 4 suicides à Toulouse, il y en a eu 4 autres dans d'autres hôpitaux cet été. ça nous fait quasiment 10 personnes qui se sont donné la mort sur leur lieu de travail, alors qu'ils ont un métier qui est particulièrement utile. Et en fait, ce que l'on voit dans ce lean management, c'est la chasse au gaspillage. Vous entendez ça partout. Et la chasse au temps mort, par exemple. Le fait de vraiment que ça roule comme une chaîne de produits, de fabrication, en fait. Et là où ça devient dramatique, on cite un infirmier, par exemple, qui explique des choses tout à fait... les gourous du lean diraient que c'est tout à fait bête, quoi, tout à fait débile, mais il expliquait que quand il prenait le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il allait leur arriver pendant leur opération, de prendre 5 minutes pour dire voilà comment ça va se passer, monsieur, madame, etc., eh bien, il diminuait de moitié les produits anesthésiants qu'il allait utiliser pour endormir le patient. Chose tout à fait bête, mais là, le lean management, il lutte contre ça. Les moments où, justement, on est dans le non-rationnel. Et voilà,
dans le non-rentable.
Dans le non-rentable, pardon. Effectivement, à force de vouloir tout rentabiliser, y compris la sécurité sociale, y compris des choses qui ne doivent pas être rentables, comme la santé, comme l'énergie, comme des choses dont nous avons tous besoin, eh bien, effectivement, on en arrive à ce que des métiers utiles deviennent des boulots de merde. Et ça, c'est profondément choquant. Et ce sont les infirmières elles-mêmes qui utilisent le mot de boulot de merde parce qu'elles estiment qu'elles ont des managements de psychopathes aussi. Juste rappeler que les gens qui dirigent le CHU de Toulouse sont des gens qui ont exercé juste avant, dans les entreprises Carrefour, Danone et Pimki. Voyez, donc ce sont des gens qui sortent de ces écoles de commerce, là, et c'est un véritable phénomène de société. Vous savez, il y a un numerus clausus pour les médecins dans ce pays, mais il n'y a pas de numerus clausus pour les managers ou les étudiants en école de commerce. Or, il y en a 350 000 par an qui sortent de ces écoles de commerce. Et c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Il faut les arrêter tout de suite, quoi. Il faut fermer ces centres de radicalisation qui sont les écoles privées de commerce. Et je suis très sérieux. Et ce sont des dangers publics et une fabrique à psychopathes, quoi.
Voilà. Et un exemple de la façon dont ça se traduit concrètement, par exemple à La Poste, il y a un postier, Serge, à Marseille, qui nous explique la chose suivante. Les postiers... Quand vous allez au bureau de poste, hein, les postiers ont maintenant l'obligation de renvoyer les gens vers les machines pour l'affranchissement du courrier, parce que la direction estime que cette activité phagocyte les guichets et ne rapporte pas assez d'argent. Donc les guichetiers sont priés d'expédier le client, vers les automates, et s'ils ne le font pas, ils perdent des points. Car la direction a mis en place un système pervers de notation aux points qui te pénalise si tu effectues trop d'opérations au guichet qui pourraient être prises en charge par les automates. Il y a aussi le temps alloué à chaque opération, comme pour les facteurs. Si ta factrice n'a pas le temps de t'apporter ton recommandé, c'est parce que le système de comptage du temps de travail te calcule à la seconde près. Au guichet, c'est pareil. Telle opération, c'est tant de temps. Quand tout va bien, t'es dans le vert. Quand on se demande ce que tu fabriques, tu passes au rouge. Et quand tu as des comptes à rendre à ta hiérarchie pour avoir passé X minutes sur telle opération, tu finis dans le noir. Et alors, ce système découle en fait du lean management, rebaptisé élan à La Poste. Donc depuis 2009, plus de 160 chantiers pilotes ont été mis en place à La Poste pour tester les dispositifs de chasse au gaspillage. L'une de ces innovations consiste par exemple à chronométrer tous les gestes du travail. Se connecter quotidiennement à l'application Renet, 0,66 minutes. Éditer l'ensemble des documents, étiquettes de réexpédition, bordereaux, internet et lettres à remettre au client, 0,73 minutes. Coller les étiquettes sur les enveloppes, 0,5 minutes. Mettre sous pli les lettres des clients, 0,1 minute. Temps total pour les réexpéditions d'un courrier, 2,14 minutes. En termes de temps, il y a au moins 30% d'écart avec la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'en réalité, même en travaillant comme un dingue, en fait, ils ne peuvent pas se conformer à ces prescriptions ubuesques. Sans compter qu'au guichet, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui ne parle pas forcément bien français ou quelqu'un qui a une demande un peu compliquée où ça va prendre plus de temps. Mais dès que vous commencez à prendre un petit peu de temps pour faire votre boulot, vous sortez des clous. Et au lieu de recevoir éventuellement, d'avoir la satisfaction de bien faire votre boulot, vous allez vous faire matraquer derrière. C'est ça la réalité du lean management. Alors nous, voilà, on s'intéresse au lean management, mais c'est qu'un aspect des logiques qui sont en place dans une grande partie du monde du travail, qu'il soit privé ou public. Et dans le public, à cet égard, n'est pas du tout mieux loti que le privé.
Alors juste pour conclure, parce que c'est sur, aussi sur le sujet sur lequel vous terminez le livre, avec l'exemple de votre ami Postier qui a eu une mise à pied de 2 ans après avoir mené une grève avec ses collègues, et qui malgré tout dit que c'est la force du collectif, c'est le fait qu'on l'a changé de bureau de poste, on l'a mis dans un quartier difficile, dans un coin ou un bureau où ses collègues se parlaient plus entre eux, où il y avait des gros problèmes à la fois de gestion de personnel, mais aussi de gestion tout court, enfin d'humain. L'un à l'autre, et malgré tout, il arrive quand même à trouver quelque chose de positif dans sa situation en disant que cette force de collectif lui permet de tenir. Donc est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce qu'il n'y a que ça comme solution?
Oui, bien sûr, bien sûr. Disons que nous, on n'a pas voulu faire... On n'était pas là pour dire, pour lancer un appel, dire révoltez-vous, indignez-vous, etc. On estime que ce n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour lancer des appels, et on n'est pas là non plus pour dire que demain les lendemains vont chanter. Le constat ne peut que être noir, pas nécessairement déprimant. On espère qu'il n'est pas que déprimant, mais il est forcément sombre. En revanche, oui, il y a des luttes, et c'est même assez miraculeux ou admirable que dans des contextes aussi durs, aussi violents. Où les travailleurs sont à ce point individualisés, isolés les uns des autres, il y a malgré tout des logiques collectives qui arrivent à reprendre le dessus. Il y a eu là en Grande-Bretagne l'été dernier des grèves des chauffeurs Uber tout à fait étonnantes, et des personnels de nettoyage du métro londonien qui nous ont tous pris par surprise. Et dans le cas de Serge Reynaud, qui avait été mis à pied pendant 2 ans pour avoir été un élément moteur dans une grande grève, une longue grève qui a eu lieu à Marseille. Et donc on l'accusait d'avoir mal parlé à un supérieur, d'avoir endommagé la porte d'entrée des bureaux de la direction suite effectivement à une occupation de ces bureaux par les postiers en grève. Un bris de glace, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux, qui est quand même autrement plus grave que des...
Il faut penser aux familles des glaces.
Que des postiers qui se suicident. Donc il a été mis à pied pendant 2 ans sans solde. Donc il a fallu derrière qu'il rame pour travailler, quoi, parce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans aucune ressource. Il ne pouvait pas bénéficier d'allocation chômage, rien. Il fallait qu'il bosse, quoi, derrière. Et après ces deux années de purgatoire, il a été réintégré et envoyé dans le bureau de poste de Marseille, où la situation était vraiment la plus dégradée. Il faut savoir quand même que, comme il l'explique, en 10 ans, la longueur d'une tournée a été multipliée par 2. Que par ailleurs, le nombre de centres ont été réduits de moitié, de sorte que entre le lieu où vous allez chercher votre courrier pour faire la distribution et la zone où vous l'effectuez, votre distribution, la distance est de plus en plus longue. Donc en fait, la charge de travail a augmenté de façon hallucinante. Et rend déjà en elle-même impossible de rendre tous les services que les postiers rendaient volontiers auparavant à titre gratuitement, gentiment, discuter avec les personnes isolées, apporter éventuellement des médicaments, des sacs de courses, etc. Tous ces petits coups de main qui donnaient en fait son sens au boulot de postier. Ça, c'est plus possible. Et non seulement c'est plus possible par les conditions même d'exercice du boulot, c'est impossible aussi du fait des instructions extrêmement virulentes qui sont données par la direction, et où en fait les seuls services que le postier peut encore rendre aux usagers doivent être des services payants. Raison pour laquelle voilà, le postier peut se retrouver missionné à promener le chien de la personne qui est en vacances, mais contre, c'est un contrat passé, donc c'est des ressources pour la poste, ou à devoir vendre aux clients, à devoir proposer les services d'un système d'alarme anti-vol, enfin ce genre de truc, quoi. Le postier est devenu un prestataire de service. En même temps, la charge de travail dans les centres de tri a explosé. Et du fait des méthodes de management mises en place, en fait, il y a plein de postiers qui craquent. Soit ils se mettent en congé maladie, avec le risque au bout d'un moment de se faire sanctionner, évidemment. Soit tout simplement, ils travaillent dans une ambiance de mort, quoi. Les gens ne se parlent plus. Et donc Serge s'est retrouvé justement affecté lors de son retour après ces deux années de punition à un bureau où les conditions étaient particulièrement dégradées. Les gens... il disait littéralement, il y avait des gens qui fondaient en larmes au boulot. Les gens étaient dans une, ses collègues de travail étaient dans une souffrance inimaginable, quoi. Et en fait, petit à petit, alors comme c'est vraiment quelqu'un de bien, donc en plus, il refuse de se mettre en avant, mais il se trouve qu'on le connaît un peu et on sait que c'est aussi ses qualités humaines qui ont permis un petit peu ça, mais pas seulement. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que des logiques un peu collectives ont repris le dessus. Les gens se sont remis à se parler. Il y a eu des grèves, il y a eu des mobilisations dans le quartier. Les gens du quartier, dans le 3e arrondissement à Marseille, se sont solidarisés avec les postiers. Et il y a eu ils ont obtenu ça, au moins. Les travailleurs, entre eux, ont réussi à nouveau à se serrer les coudes entre eux. Bien évidemment, ça n'a pas mis un coup d'arrêt aux réformes successives qui pleuvent au rythme à peu près d'une tous les deux ans. Tous les deux ans, il y a un nouveau dispositif qui tombe pour à nouveau rationaliser, comme ils disent, c'est-à-dire charcuter. Ils n'ont pas mis fin à ça, bien évidemment. Donc Serge, qui est par ailleurs délégué du personnel, est extrêmement modeste sur ce qu'ils ont obtenu. Mais ils ont au moins obtenu ça, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus qui n'ont plus le moral dans les chaussettes et qui sont contents de venir au boulot, non pas parce que le boulot est redevenu intéressant, parce que le boulot est toujours aussi évidemment dénué de enfin, privé du sens qu'il avait auparavant, mais tout simplement parce que ça fait plaisir de retrouver les collègues, de pouvoir déconner sur le lieu de travail, de pouvoir vanner et de pouvoir organiser des choses. C'est-à-dire qu'ils sont redevenus maîtres aussi de leur espace de travail. Ils ont pu organiser des réunions. Il y a les Nuits Debout de Marseille qui ont pu venir tenir leur AG dans ce bureau. Ils ont la direction a envoyé un responsable de centre qui est un peu moins un cost killer que les précédents. Et donc, bon, voilà, ils savent qu'ils n'ont fait que gagner du temps, mais ils ont aussi gagné un peu de dignité et peut-être regagné un poil d'espérance de vie par rapport à toutes celles qu'ils avaient perdues auparavant, quoi. Et donc, c'est très modeste. On ne peut pas en conclure retirer de ça des perspectives extrêmement rayonnantes sur l'avenir. Mais au moins, voilà, cette possibilité existe. Et c'est évidemment de ces possibilités-là qu'il faut tâcher de s'emparer, y compris dans nos propres milieux. Ça veut dire tout d'abord casser l'isolement. Que ce soit Julien ou moi, on a tous eu une expérience collective à travers des journaux ou des rédactions dans lesquelles on a travaillé. Au jour d'aujourd'hui, on est tous les deux des petites entités individuelles. Et donc, renouer avec le collectif, en fait, c'est ça la première nécessité, quoi. Et c'est ce qui oblige à aller contre l'ordre établi, qui voudrait qu'on soit tous notre propre entreprise. On est chacun une entreprise dont l'objet social consiste à trouver un boulot et à le garder, contre vents et marées. Voilà, c'est ça la réalité, quoi.
Ça me fait penser aux travailleurs de Fralib qui fabriquent du thé, vous savez, et qui ont fait une grève héroïque de 1336 jours. Et bon, leur boulot n'a pas tellement changé. Il doit être toujours aussi pénible autour d'une chaîne à devoir remplir des sacs de thé, de faire ça à la chaîne. Mais au moins, aujourd'hui, ils gagnent tous le même salaire. Ils sont dans un état d'esprit collectif. Et ça, même si le boulot en lui-même doit être toujours aussi inintéressant, entre guillemets, au moins, il y a une fierté retrouvée et le fait qu'on avance tous ensemble, quoi, qu'on ne soit pas tous des ennemis potentiels les uns pour les autres. Et ça, je crois que c'est novateur dans le monde du travail.
Ça sera le mot de la fin. Merci, messieurs.